Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la nuit de la vieille Europe, dirigé par Patrick PL, assisté de Philippe Christel et Grégoire Gambier. Diffusé en direct mardi 18 septembre 2012 de 21h30 à 23h et en différé jeudi 20 de 21h30 à 23h également. Elle a été réalisée par Benoît. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Vieille Europe, toujours sur Radio Courtoisie. Nous voici donc de retour pour une nouvelle saison et très content de vous retrouver, chers auditeurs. Alors ce soir, nous allons avoir dans le studio, mais comme il y a un match de football au Parc des Princes, je crois que mes collaborateurs sont un peu en retard. Nous aurons tout à l'heure Grégoire Gambier qui va m'accompagner dans notre entretien. Et nous aurons aussi Philippe Christel qui, en dernière partie, nous donnera l'actualité en Europe. Alors je m'excuse d'avance, mais étant légèrement enrhumé, je risque d'avoir une voix un peu désagréable. Enfin, j'espère que les auditeurs me pardonneront. Mais pour commencer sur une actualité qui est brûlante, qui donne l'impression même d'une accélération, c'est bien sûr le Proche-Orient. Alors encore, diront certains, pourtant si parfois nous pouvons à la vieille Europe se passer de l'actualité immédiate, par exemple les élections présidentielles de 2012, qui nous montrent chaque jour la médiocrité de notre politique nationale, et on ne peut pas dire que M. Hollande peut vraiment rivaliser avec M. Sarkozy. Il nous semble important d'analyser régulièrement le chamboulement politique du monde arabe, et tout particulièrement du Moyen-Orient, que ce soit en Syrie ou en ce moment avec ces histoires de films américains et de ces révoltes et de ces ambassades qui brûlent. Alors pour en parler ce soir, nous allons avoir le plaisir d'avoir, dès que la technique nous l'aura donné, Xavier Guillou. Xavier Guillou qui est un expert au niveau de la gestion des risques. Alors pour vous le présenter, pour le présenter aux auditeurs de Radio Courtoisie, je crois que certains le connaissent déjà parce qu'il est déjà passé plusieurs fois à Radio Courtoisie. Xavier Guillou est un expert en gestion des crises et au niveau international. Il est titulaire de plusieurs doctorats en sciences humaines. Et il est aussi auditeur à l'Institut des Hautes Études Nationales. Nous allons, j'espère, bientôt l'avoir. On va juste faire une petite pause musicale parce que nous avons juste un problème technique et je vous retrouve d'ici quelques secondes avec Xavier Guillou. Je suppose que nous devrions l'avoir d'ici quelques minutes. Donc, de retour, je suis désolé pour les auditeurs qui attendaient que nous commencions notre émission sur la Syrie. Donc, je rappelle aux auditeurs qui ont pris l'antenne que nous allons avoir par téléphone pour parler de la crise syrienne Xavier Guillou. Est-ce que vous m'entendez, Xavier Guillou ?
Très, très bien.
Parfait. Bonsoir à vous et merci de votre participation aux chroniques de la Vieille Europe. Alors, je vais reprendre ma présentation de tout à l'heure pour vous présenter aux auditeurs de Radio Courtoisie, mais effectivement, vous êtes déjà passé sur cette radio. Vous êtes expert en gestion des crises et au niveau international. Vous êtes titulaire de plusieurs doctorats en sciences humaines et en sciences politiques et aussi auditeur à l'Institut des hautes études de défense nationale. Et vous avez publié plusieurs ouvrages, dont le dernier, je crois, c'est « Quand la France réagit » aux éditions Erol. Je me trompe pas. Voilà. Alors, avant peut-être de voir l'actualité brûlante de la Syrie depuis quelques mois, ou de la Libye même, n'est-on pas en train de voir une incapacité de l'Europe et particulièrement de la France à comprendre cette révolution arabe, contrairement peut-être au reste du monde, que ce soit les États-Unis, la Russie, la Chine, la Turquie ou l'Iran? Est-ce qu'on est absent de ce conflit?
Alors, je rejoins votre diagnostic, c'est-à-dire que je pense que l'ensemble des opérateurs européens ont soit pratiquent le déni, soit ont une mauvaise analyse de ce qui se passe dans le monde arabo-musulman. Et je vous rejoins dans le sens où aussi bien les États-Unis, la Russie, mais les grands opérateurs, les grands acteurs, je dirais, du monde arabo-musulman ont une autre vision de la situation. Alors, je pense que nous sommes enfermés la vieille Europe est enfermée dans une vision très stéréotypée, je dirais, de sa relation avec le monde arabo-musulman, et je ne sais pas si elle ne veut pas en sortir ou si ses a priori dominent un petit peu la réflexion tant intellectuelle que politique. Une chose est certaine, c'est que aujourd'hui on considère. Moi, j'ai eu un contact avec un diplomate qui m'a un peu. C'est l'anecdote, mais qui m'a un peu stupéfié. Il m'a dit, de toute façon, en Syrie, on est Syrien. On dit bon, on est Libanais. Et je lui dis non, en Syrie, on est Syrien à la huit de Tartous ou on est Syrien. Sunnites de Homs, etc. Enfin, on est sur plusieurs dimensions, on n'est pas simplement sur une seule. Et lui, il était dans cette vision État-nation qui se projette forcément sur l'ensemble du monde. Il était dans cet héritage que l'on connaît bien et qui est celui qu'on a projeté depuis 1860 sur l'ensemble du Levant et du Moyen-Orient. Et encore plus depuis 1920, et où derrière les accords Sykes-Picot, et où on considère que derrière l'opération du général Gouraud qui a remonté à Damas et qui a mis en échec les troupes de Fessal et les Kurdes les Druzes qui contrôlaient le Chouf, et donc on considère que tout le monde doit adopter la vision universelle que l'on a depuis deux siècles ou trois siècles de la gouvernance internationale. Or, ce monde-là, le monde de l'Orient que moi j'arpente et je fréquente en permanence, vit sur d'autres paradigmes aujourd'hui. Il est sorti du nationalisme arabe, il est sorti des grandes idéologies du XXe siècle. Et il y a une espèce de réveil identitaire très fort, l'identitaire turc, l'identitaire iranien, que l'on pourrait même qualifier de perse, sur le fond. Ouais. Ou voire même la problématique sunnite, qui veut affirmer un certain islam par rapport à toute une frustration qu'ils vivent d'un islam qui a été mis un petit peu sous contrôle ou sous contrainte au cours du XXe siècle.
En fait, j'ai l'impression que l'organisation de ce Moyen-Orient, qui a été grosso modo organisée par les Français et les Anglais, ont mis une sorte de chape de plomb sur ces identités, ces religions, et que l'Europe ne s'en est pas aperçue.
Alors, ça va plus loin que ça, parce que vous avez raison sur le fait que D'abord les Français, hein, les Français, bon, comme les Anglais, à la fin du 19e siècle, parce qu'on fait souvent remonter, si vous voulez, la genèse de toute la situation au Levant aux accords Sykes-Picot. Mais il faut remonter à Napoléon III, en fait. Hein. Il faut remonter à toute cette histoire où Français et Anglais se sont combattus en termes de gestion d'influence sur le contrôle du passage du canal de Suez, sur le contrôle de tout ce nœud qui était le Caucase Levant, à une époque où bon, on parlait de colonisation, hein, on marquait de notre empreinte quand même l'ensemble du monde, hein, et où on était très manœuvrant. Et en fait, la véritable entrée dans cette histoire du Levant, c'est 1860 avec Napoléon III. Ensuite, derrière les Français et les Anglais, derrière le démantèlement de l'Empire ottoman, avec les accords Sykes-Picot.
On va peut-être rappeler aux auditeurs les fameux accords Sykes-Picot. Ce sont deux hommes d'affaires, c'est ça, à l'époque, qui signent...
Oui, enfin, diplomates et hommes d'affaires qui ont eu comme mandat... Enfin, c'est un avenant au traité de Sèvres, hein, qui a permis de pouvoir démanteler l'Empire ottoman sur l'ensemble du Moyen-Orient et d'attribuer comme mandat aux Anglais et aux Français la maîtrise de l'ensemble de cette zone qui devenait très attrayante, notamment sur le plan pétrolifère. Hein. Donc les Français ont été en charge de la zone nord du Levant avec les puits de Mossoul. C'est comme ça que la Compagnie française des pétroles a vu le jour. Compagnie française des pétroles qui est connue aujourd'hui sous le nom de Total. Et c'est aussi comme ça que les Anglais ont pris le contrôle, notamment de la zone de Basra, au sud de la Mésopotamie, hein, là où il y a l'aboutissement du Tigre et de l'Euphrate. Et ces deux zones étant des zones de gisement pétrolier assez importantes en ce début de XXe siècle. Alors après, les choses se sont un peu modifiées parce qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale, et lors de la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont repris la main. Mmh. Ont évincé progressivement les Français et les Anglais du paysage. Et il y a eu ces fameux accords qui ont été signés sur le Quincy, qui était un bateau de guerre américain, sur lequel Roosevelt a convoqué les Saouds, et a passé un accord avec les Saouds, hein, pas forcément avec l'Arabie Saoudite ou avec ce qui est devenu le pays aujourd'hui qu'on connaît, l'Arabie Saoudite, mais avec la famille des
Saouds. Oui, c'est, à l'époque, en fait, ils n'ont pas un territoire bien délimité, donc il n'y a pas un accord entre deux pays.
Hein. Non, c'est un accord avec la famille, et dans cet accord, il est stipulé que les Américains accordent la sécurité permettent à la famille de prendre le pouvoir en contrepartie, une espèce de quitus pour que les Américains puissent contrôler de façon uniforme et sans concession la sécurité énergétique pour l'Occident. C'est comme ça que l'Aramco a été créé, et puis c'est comme ça qu'on a connu après progressivement, si vous voulez, cette implantation plutôt nord-américaine sur la zone et qui a dimensionné toute la géopolitique de l'ensemble de la péninsule arabique, mais beaucoup plus que de la péninsule arabique, toute la géopolitique du pétrole depuis les années 50, quoi. Voilà. Mais qui nous a assuré, nous, au niveau occidental, une sécurité, une prospérité, une sérénité sur laquelle nous avons vécu sans trop réfléchir. Je ne suis même pas forcément sûr qu'aujourd'hui la vieille Europe réfléchisse beaucoup sur les conditions de cette sécurité. Quand on voit que, je suis très précis dans mes propos, quand on voit que nous accordons aux Saoudiens ou aux Qataris sur cette crise de syrienne un sauf-conduit total sous prétexte que ces gens-là nous rachètent une partie de notre dette, et qu'ils nous demandent en contrepartie de soutenir, des mouvements rebelles qu'on appelle insurgés dans la presse, et qui, par derrière, vont diffuser la bonne parole de rites wahhabites qui qui n'ont absolument aucune sympathie pour nos sociétés occidentales.
Alors, effectivement, on a beaucoup ridiculisé à une époque les thèses des néoconservateurs sous l'époque de George Bush. N'empêche que sur l'effet domino au Moyen-Orient tel qu'il il l'avait prévu, sur l'analyse des différents régimes qui pourraient tomber facilement, ils ont eu tort sur la façon d'amener les choses. Aujourd'hui, leur stratégie est plus discrète, mais les buts sont les mêmes. En fait, ils avaient analysé beaucoup mieux que cette vieille Europe qui était à l'époque de Chirac un peu néo-gaulliste avec ses États-nations.
Oui, je pense que, si vous voulez, pour remonter un petit peu en amont, je pense qu'en Europe, notamment les Français, n'ont pas compris ce qui s'est passé avec la chute du mur, toute cette ouverture qui s'est passée sur le centre-Europe et les ruptures de jeu qui sont celles que nous avons eues derrière la fin de la guerre froide. Pour les Américains, si on remonte avant ces événements, les événements significatifs de la fin des années 80, début des années 90, les années 80, les Américains, pour les avoir beaucoup fréquentés à ce moment-là sur ces questions-là, étaient conscients qu'on ne pouvait plus continuer sur un mode énergétivore tel qu'on était parti dans les années 70-80. Et à l'époque, on avait Reagan et Bush au pouvoir, le père Bush, Et ils sont partis dans une stratégie face aux Russes de rupture de jeu qui a été celle de la guerre des étoiles. Beaucoup s'en rappellent pas, mais derrière la guerre des étoiles, l'objectif était d'aller vers un changement du management de l'offre-demande, de la gestion de l'offre-demande en matière d'énergie fossile. Bon, les Russes n'ont pas voulu adhérer au protocole que les Américains leur ont proposé à l'époque, et c'est parce qu'ils ont refusé que Reagan a décidé de les mettre en mode échec et de mettre un terme, si vous voulez, à la brutalité de la relation avec le système brejnevien, qui lui était plutôt sur une approche de conquête de l'Europe par une voie à la fois très mécanique et très énergétivore à l'époque. Une chose est certaine, c'est que lorsque le mur est tombé et que lorsque le jeu a été rompu, les Américains se sont trouvés en logique de surpuissance. Ils se sont trouvés face à un problème gigantesque qui était celui d'assumer la sécurité énergétique, le problème de la sécurité à la fois énergétique et le problème de du management de la transition énergétique avec des acteurs qui n'avaient pas pris conscience de l'importance du problème. Moi, je me rappelle très très bien, j'ai eu à travailler sur ces questions-là dans les années 90. Il y avait un certain nombre de think tanks américains ou de spécialistes, de grands experts qui avaient alerté, bien au-delà le Club de Rome et toutes les discussions qui étaient à l'époque autour de ces problématiques du peak oil et de la rareté énergétique. Ils étaient mobilisés à fond sur la problématique de la gestion de ce nœud stratégique qui était le Moyen-Orient. Et on voyait bien qu'à cette époque-là, on avait des risques majeurs qui étaient le glissement de la gouvernance de ces pays-là. Et c'est là où George Bush, le père, a commencé à engager des processus de maîtrise de la zone. C'était la première guerre du Golfe, que personne n'a compris. La première guerre du Golfe, Il a tapé du poing sur la table et il a, dans le jeu entre l'Irak, le Koweït, etc., enfin, je n'entrerai pas dans les détails, dans les pulsions locales, si vous voulez, mais il a décidé que c'était non négociable. C'était non négociable, qu'il en allait de la survivance du leadership de l'Occident et qu'il était absolument indispensable de maîtriser la situation. Puis progressivement, les choses se sont détériorées. À l'intérieur même du système saoudien, on a eu ce choc en termes d'écophagie, je dirais, qui a amené notamment les réseaux wahhabites à rompre avec l'adhésion de la famille Saoud avec les Américains. Donc ça, c'est dans les années 95.
C'est au moment de la révolte de Ben Laden aussi,
temps. Oui, la révolte de Ben Laden. C'est à ce moment-là où il y a eu cette rupture, si vous voulez, avec la famille Saoud. les Américains ont eu très très peur à ce moment-là. Et puis on est arrivé. Alors le 11 septembre, il faut se rappeler quand même que la première attaque délibérée quand même contre la façon dont les Américains assuraient en termes de surpuissance cette couverture de la sécurité du monde occidental dans une indifférence totale de l'Europe, qui n'avait absolument pas compris ce qui était en train de se passer, le président Mitterrand en premier, et puis Chirac ensuite, etc. Enfin, tout le monde vivant dans une indolence et dans une jouissance totale. Enfin, je veux dire, c'était la période des dividendes de la paix, rappelez-vous. Ouais. Enfin, où on vendait à nos sociétés à la fois des bulles spéculatives les unes derrière les autres, et puis la possibilité de ne plus travailler, de n'avoir plus que des rentes qui seraient produites par le retour sur investissement des pays émergents qui nous paieraient quasiment des royalties sur notre la qualité de nos productions. Enfin je passe les détails.
Société de service.
Oui, pendant ce temps-là, nous on s'enfonçait dans une espèce d'illusion. Les Américains, eux, étaient... Alors on a dit que c'était les néoconservateurs, mais pas que les néoconservateurs. Moi, j'ai eu des discussions avec des démocrates qui étaient très, très conscients de la sensibilité du problème et même de l'importance, si vous voulez, en termes de responsabilité de leur positionnement par rapport à cet enjeu pour l'Occident. Et donc, ils se sont retrouvés... faut se rappeler quand même que la première attaque délibérée contre ce leadership américain, ça a été 93, hein, enfin 92-93, avec ce qui s'est passé sur les Twins. Enfin, ce qu'on appelle les Twins, c'est les fameuses tours, avec une première attaque qui a eu lieu de manière délibérée sur les tours, qui n'a pas réussi, et qui a été réitérée le 11 septembre 2001, donc 7 ans plus tard. La rupture à l'intérieur du système saoudien a été explicite, et où on s'est retrouvé face à un problème majeur, qui est celui... d'une remise en cause majeure de tous ces accords qui avaient été signés ou qui avaient été négociés à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il faut se rappeler que ces accords qui avaient été signés sur le Quincy étaient arrivés à échéance en 2005, là, qu'ils ont été re-signés. Il y a eu un nouvel accord qui a été signé à l'époque de George Bush W, là, mais qui sont remises en cause fondamentalement, notamment par les wahhabites ou par un certain nombre de dispositifs qui contestent la signature de la famille Saoud avec les Américains, vis-à-vis des Américains. Donc on est rentré dans une phase depuis 2001 où cette sécurité énergétique n'est plus garantie dans les jeux d'acteurs, et où on doit l'assurer, c'est ce que disaient même des Américains, par défaut et manu militari. Donc c'est là où ils sont engagés dans tous les processus qu'on connaît aussi bien. Alors il y a l'affaire afghane d'un côté pour réduire les nœuds d'Al-Qaïda et tous les réseaux Ben Laden et consorts. Et puis il y a eu l'affaire de l'Irak, etc. Voilà. L'objectif aujourd'hui des Américains, que ce soit aussi bien de l'administration républicaine que démocrate, parce qu'en France on ne comprend pas grand-chose à ces choses-là, je ne peux pas dire qu'on est assez ignare, mais on ne fait pas l'effort de comprendre les enjeux qui se posent à un niveau stratégique pour l'Amérique, qui assume pour l'Occident aujourd'hui un certain nombre d'opérations. L'objectif pour les Américains, c'est d'arriver à tenir ce qu'ils appellent ce grand Moyen-Orient. Alors, je partage votre analyse sur le fait que, sur la méthode, comme ils sont en surpuissance, en hyperpuissance, pour reprendre une formule de Gavrine, ils déploient des moyens inconsidérables avec des ingénieries sur le plan sécuritaire qui ne correspondent pas forcément à la nature du terrain qu'on a à traiter. Là-dessus, on peut disserter pendant longtemps. Enfin, les Européens n'arrivent pas à la cheville, si vous voulez, de ce qui est mis en œuvre par la diplomatie ou par les armées américaines pour au moins tenir, si vous voulez, ce niveau d'enjeu dans l'immédiat.
Alors, vous êtes toujours sur Radio Courtoisie et nous recevons Xavier Guillou qui nous parle de cette crise syrienne, et une question de Grégoire Gambier.
Oui, bonsoir Xavier Guillou.
Bonsoir.
Enchanté de vous avoir en ligne. Simplement, je prends la balle au bon sur le fait que les États-Unis, effectivement, jouent peut-être le sale rôle de l'Occident en essayant de maîtriser le Grand Moyen-Orient.
Mais
dans un papier récent, donc du 25 août dernier, l'énigme syrienne, vous soulignez le fait que ce Moyen-Orient se poutinise. Voilà, Ankara, Téhéran et même Jérusalem.
Oui.
Donc, est-ce que ce n'est pas contradictoire? Enfin, est-ce que les deux démarches ne vont pas s'entrechoquer entre les États-Unis, donc qui essayent toujours de contrôler et donc de déverser leur révolution de couleurs plus ou moins bien contrôlée d'un côté, et des régimes ou des capitales qui retrouvent la réelle géopolitique, si on peut dire, et que ça amuse nettement moins.
Oui, alors je partage votre question sur le fond avec, je dirais, dans la réflexion, plusieurs niveaux d'analyse. Le premier, c'est que les Américains, comme tous les gens, tous les experts qui sont dans le monde pétrolier, le monde de l'énergie est un monde que je connais bien pour y avoir travaillé pendant, avec tous les opérateurs pendant 20-30 ans. Et donc, on est sur des cycles assez longs, donc avec des opérateurs qui sont pas dans l'instantanéité. Enfin, quand on est sur des problématiques de forage, d'exploration, de recherche, de pipeline, etc. Mmh. On est tout de suite sur des niveaux d'investissement où on prend des positions à 10-15 ans. Et une chose est certaine, c'est que voyant cette fragilité, cette vulnérabilité qu'il y a sur la péninsule arabique, avec en plus de ça des questions de fond qui se posent sur la qualité des ressources que l'on a sur cette zone-là, parce que en fait les pays pétroliers ne racontent pas forcément toute la vérité sur la qualité de l'Arabian Light que l'on a aujourd'hui, etc. Mmh. Une chose est certaine, c'est que les grands professionnels de l'énergie qui sont très liés au monde politique font remonter aujourd'hui cette sécurisation de l'énergie pour l'Occident qui quand même joue un rôle majeur quand même dans l'économie mondiale et dans le fonctionnement du monde aujourd'hui, quoi qu'on dise, font remonter une grande partie de cette sécurisation sur le nord de ce proche Moyen-Orient. Et si vous regardez bien la construction des pipelines ou toutes les gestions d'opérations de prospection, d'exploration, etc., qui se négocient depuis 10-15 ans, on voit bien que la tendance remonte sur le Caucase, la Caspienne, la mer Noire, l'Asie centrale. Tous les jours, il y a des accords qui sont passés, etc. Il y a des nœuds de pipes qui sont en train de se mettre en place à la fois sur l'Iran, le nord de l'Irak, la Syrie, la Turquie, le Caucase, etc. Et donc vous avez un certain nombre d'acteurs qui, hier, étaient secondaires, ou n'étaient pas forcément dans le grand jeu, comme le Turc, comme le Russe, même comme l'Iranien, qui a été dans le grand jeu, et puis a été exclu du grand jeu, a été diabolisé, il revient dans le grand jeu aujourd'hui. Et ces acteurs-là disent, écoutez, nous existons, nous existons, et les protocoles qui ont été signés avec les Saoudiens, c'est gentil, mais les Saoudiens, ce sont des Bédouins, ce sont des sunnites du Sud, certes, ils ont pesé économiquement et financièrement, certes, ils ont des réserves financières qui rachètent à tour de bras vos dettes pour vous lier dans la prise de décision. Mais nous, Turcs, on représente plus de 90 millions de personnes. Nous, Iraniens, quand vous regardez le bassin aujourd'hui, au-delà de l'Iran, enfin, le bassin chiite, avec son emprise sur l'ensemble du Proche-Orient, plus personne ne peut le prendre pour un acteur secondaire. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, l'Iran déborde sur l'Afghanistan dans la vallée d'Herat, déborde sur l'Irak. Aujourd'hui, l'Irak est géré par des chiites, mais déborde sur la province orientale de l'Arabie saoudite, la province la plus riche en matière de puits pétroliers. Tous les jours, il y a des manifestations chiites dont on ne parle jamais sur cette province orientale de l'Arabie saoudite, qui peut très bien faire sécession avec le royaume.
De toute façon, l'implosion de l'Arabie saoudite est probable. Personne ne sait quand elle aura lieu, mais sinon, personne ne parie en tout cas sur la viabilité du royaume.
De toute façon, le royaume aujourd'hui, il est sous perfusion. Il est tenu... il est protégé sur le plan sécuritaire par une armada qu'on a mis en place aussi bien au large d'Ormuz à l'intérieur du pays, en termes sécuritaires, pour faire en sorte que ça tienne. Mais on voit bien que la famille saoudienne est menacée de l'intérieur, y compris même par les membres de la famille. Enfin, quand on regarde la structuration de la famille saoudienne et l'adhésion notamment de la base de la famille saoudienne au réseau Al-Qaïda au travers de la Zoukate, qui est un des piliers de l'islam, et au réseau salafiste et au wahhabisme, on a toutes les raisons, si vous voulez, quand même, d'être inquiets. Les Américains l'ont compris, ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, une grande partie, si vous voulez, de l'effort est recentrée vers le Nord. Mais quand vous remontez, quand vous regardez ce recentrage sur le Nord, ben vous avez des acteurs, Erdogan, Vladimir Poutine, ou, sans aller dans le côté, si vous voulez, très voyeuriste de ce plan géopolitique de Ahmadinejad, mais de Khamenei, suprême de l'Iran, qui pèse un poids énorme sur le fonctionnement du pays. On a quand même trois dirigeants là qui sont aujourd'hui incontournables dans le jeu géopolitique et qui n'ont pas envie de rentrer, si vous voulez, dans de la logique de compromis. Voilà. Je pense que c'est ce qui est en train de se passer autour de l'affaire syrienne, et c'est là où l'affaire syrienne devient non pas intéressante, mais je veux dire, parce que malheureusement il y a quand même des morts et des victimes sur le terrain, pas forcément par milliers comme dit l'ODSH, mais de façon significative, devient un enjeu, si vous voulez, un enjeu, parce que c'est là où les Américains se trouvent confrontés pour la première fois, je pense, non pas à un mur, mais au moins à des obstacles qui, sur le plan géostratégique, commence à poser les termes de nouveaux protocoles, quoi, je veux dire, voilà. Avec en toile de fond quand même aussi, il faut pas oublier les Chinois, qui sont aujourd'hui dans une phase de changement de gouvernance, qui ont même des problèmes qui sont même aussi dans une logique un peu hystérique sur leur propre zone avec les Japonais, mais qui eux ont aussi un jeu à jouer. Et pas un jeu marginal à jouer dans cette reconfiguration.
Juste pour rebondir sur le texte que parlait Grégoire Rambier, parce que vous avez un passage qui est amusant, effrayant et même cruel sur les chefs d'État. Vous dites, il suffit de comparer les cursus très militarisés de Poutine, Netanyahou, Barak, Ahmadinejad et le très militant Erdogan à celui de nos dirigeants européens très policés et peu charismatiques, pour se rendre compte que nous sommes sur un risque majeur de casting politique. C'est terrible, mais tellement vrai, l'Europe là-dedans est complètement out.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a... Vladimir Poutine est quand même un personnage hors du commun sur le plan géopolitique. C'est quelqu'un qui est issu sur le plan historique des réseaux clandestins de l'ex-KGB. Il a eu une culture opérationnelle sur la RDA que Angela Merkel connaît, puisque c'était son principal adversaire quand Angela Merkel lorsque la RDA est rentrée, si vous voulez, dans la logique de fusion avec l'Allemagne de l'Ouest, elle savait qu'elle avait affaire à des gens comme ça qui étaient redoutables, quoi. Donc bon, après vous connaissez le cursus de l'intéressé. On n'a pas affaire à quelqu'un qui est un tendre. On a affaire à quelqu'un qui est un guerrier, qui a tout mis en œuvre pour redevenir un tsar. Erdogan, aujourd'hui, quand vous prenez Poutine ou Erdogan, Erdogan comme Poutine ont les élections derrière eux. Donc ils ont aujourd'hui un champ qui est totalement libre. Ils n'ont pas à rendre compte, si vous voulez, à des opinions publiques, quoi qu'on dise. Et Erdogan comme Poutine, quand vous lisez leurs écrits, c'est clair. Enfin, je veux dire, il y a une réaffirmation de la Sainte Russie d'un côté, il y a une réaffirmation de la Sublime Porte de l'autre. Et quand vous allez du côté de Téhéran et que vous discutez avec les dirigeants de Téhéran, ils ne rêvent que d'une seule chose, c'est du rétablissement d'un empire central perse qui, une fois pour toutes, réaffirme un certain rayonnement d'un islam qu'ils estiment plus éclairé que l'islam sunnite. Donc, et nous, en Europe, on n'a pas du tout pris conscience que ces dirigeants et ces peuples ont envie de revenir dans l'histoire. On s'imagine que ces peuples vont accepter une fois de plus de re-rentrer dans un protocole fermé qui va être rédigé ou qui va être institué par les grandes organisations internationales comme l'ONU et autres. On voit les difficultés de l'ONU sur la Syrie en ce moment. Hein. On voit que notre émissaire n'arrive même pas à réunir, comme il le faudrait, un groupe quadripartite, ne serait-ce que des pays arabes. Les pays arabes, alors qu'il est algérien d'origine, les pays arabes l'envoient balader, quoi, en quelque sorte. Hein. La Turquie, l'Iran, l'Égypte, l'Arabie saoudite, ils ne veulent pas traiter avec lui. Donc ces différentes puissances ont décidé de s'affronter aujourd'hui, hein, s'affronter et considèrent l'Américain, bon, ils le considèrent parce que l'Américain a quand même une certaine puissance militaire et une certaine puissance informationnelle qu'il redoute quand même, hein, et voire financière qu'il redoute quand même. On voit bien aujourd'hui, Morsi commence à modérer un petit peu au niveau de l'Égypte un certain nombre de propos parce que les Américains ont décidé de geler 1 milliard de dollars ou 2 milliards de dollars, là, juste avant les élections, suite aux événements liés au film qui circule sur Internet. Donc il y a des moyens de rétorsion. Oui. Mais au-delà des moyens de rétorsion, l'intention stratégique de ces différents pays, c'est d'exister demain. C'est d'exister et de se réaffirmer. Et de se réaffirmer, alors, sur le champ identitaire, mais sur le champ aussi, c'est le problème notamment des sunnites, sur le champ religieux. Là, on est dans un processus qui est un processus où c'est vrai que le casting de nos dirigeants européens à côté me semble bien piètre et consternant. Enfin, je veux dire.
Vous avez eu l'élégance de ne pas les citer dans votre article. Hein, vous n'avez pas donné les noms.
Oui, mais enfin, si vous regardez notre classe politique française aujourd'hui, on n'a pas affaire à des grands guerriers. D'accord.
Non,
on a affaire à des pleutres d'une certaine manière, et de l'autre côté à des technocrates, des bureaucrates qui ne veulent surtout pas expliciter les choses telles qu'elles sont. Je suis même pas forcément sûr qu'ils comprennent forcément tout ce qui se passe. Enfin bon, ça c'est c'est mon point de vue. Mais on est très très loin, si vous voulez, du niveau de vision, de courage et de détermination qu'il faudrait par rapport au rendez-vous qu'on a devant nous.
Grégoire Gambier.
Oui, Xavier Guillou, au-delà du casting et même de l'échiquier du Moyen-Orient, on a plus globalement l'impression d'une perte d'influence progressive des grands États gendarmes. Bon, vous avez rappelé que les États-Unis continuaient à compter, mais peut-être quand même un peu moins, en tout cas dans leur mission de gendarmerie. Donc, perte d'influence de ces grands États, dont la France bien sûr, et des institutions internationales, vous avez cité l'ONU tout à l'heure, dans la gestion de ces crises.
Ouais.
Et c'est un monde qui connaît de plus en plus de crises, et de crises qui peuvent être, qui peuvent avoir un effet domino, comme le disait tout à l'heure notre ami, et donc être incontrôlable presque du jour au lendemain, hein, de la mer de Chine à la Syrie, au dossier nucléaire iranien. Que pensez-vous de cette impression, donc de cette perte d'influence des grandes institutions, des grands États institués, et quel avenir voyez-vous pour les modalités de gestion de crise, ou plus exactement de management du chaos, comme vous l'avez décrit dans vos écrits, justement?
Alors, je vais reprendre le terme d'impression que vous, oui, que vous avez évoqué, parce que je pense qu'il faut faire très attention entre, l'impression qu'on peut avoir, et qui est généré par une hypermédiatisation, voire une saturation informationnelle.
Une sidération médiatique.
Oui, qui est quand même assez assez stupéfiante. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, la puissance d'Internet, des réseaux sociaux, etc., enfin, de tout ce qu'on peut avoir, si vous voulez, comme outil médiatique, a tendance à nous donner l'impression que l'Occident ne maîtrise plus rien, que l'Occident est en perte de vitesse et que l'Occident... là-dessus, je serais un peu réservé parce que l'Occident a encore de la capacité. Hein. On a encore des outils sur le plan sécuritaire, sur le plan militaire, même sur le plan suprême, si on va jusqu'au niveau nucléaire, etc. qui nous permettrait quand même, si on veut vraiment taper du poing sur la table, on peut vraiment le faire aujourd'hui. Faut jamais oublier quand même que, pour prendre le cas de l'Amérique, je suis plus réservé vis-à-vis de l'Europe. Hein. L'Europe a quelques outils très très pointus en termes de renseignement, d'opérations spéciales, de projection aéronavale, etc., qui peuvent être significatifs sur des opérations très ciblées, dans des espaces-temps très réduits. Il ne faut pas qu'on en ait trop à assumer en même temps, mais dans des espaces-temps très réduits, on peut faire illusion.
Ouais, on peut gagner la guerre de Libye, quoi.
On peut faire illusion.
Oui.
D'accord. Faut pas qu'on ait trop d'hommes à débarquer ou que l'on ait vraiment de l'affrontement à gérer. On peut à la rigueur bon donner l'impression, si vous voulez, que on a encore une main. Faut voir que bon de l'autre côté les protagonistes qu'on a sur le terrain sont quand même pas très très bien organisés ou très très bien structurés. Vous regardez les images que vous avez eues sur la Libye, c'était pas trop difficile, si vous voulez, d'avoir une certaine suffisance sur un terrain quand même très...
assez facile, en plus.
Oui, c'est assez facile. Oui. Les Américains ont quand même des capacités considérables, à condition de ne pas avoir plusieurs fronts stratégiques à gérer en même temps. Tant que la situation est ce qu'on connaît aujourd'hui sur la Méditerranée et le Moyen et Proche-Orient, ils peuvent se permettre de taper du poing sur la table de temps à autre et être encore dans une position de régulateur. Gagner militairement, ça ne veut pas dire qu'ils gagneront politiquement ou stratégiquement. On l'a vu sur l'Afghanistan ou sur l'Irak. Mmh. Moi, sur l'Afghanistan comme sur l'Irak, j'ai toujours été de ceux qui ont dit que les Américains pouvaient gagner les batailles en très peu de temps, mais qu'ils ne les gagneraient jamais sur le plan stratégique, parce que de toute façon, ce sont d'autres méthodes, d'autres enjeux. Voilà. En l'occurrence, par exemple, s'il faut aller sur la Syrie ou s'il faut même aller beaucoup plus loin sur le Moyen-Orient, ils peuvent réitérer ce qu'ils ont déjà fait. Ils ont la capacité de le faire. Si jamais on a un deuxième front qui s'ouvre, qui est par exemple sur le Pacifique, avec ce qui se passe aujourd'hui, bon, qui, à mon avis, est sans trop de gravité pour l'instant, mais est un signal faible quand même, important pour le moyen terme. Obama l'a bien précisé qu'aujourd'hui, ses vraies préoccupations étaient sur le Pacifique, beaucoup plus que sur le Proche et Moyen-Orient dans l'immédiat. Les Américains seront obligés d'arbitrer à un moment donné. Ils ne pourront pas, notamment avec la crise économique qu'ils traversent, avec la situation, la crise de modèle qu'ils traversent aujourd'hui et les préoccupations intérieures qu'ils ont, ils ne pourront pas assumer deux lignes de front majeures. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, ils seront obligés de choisir. Et s'ils choisiront d'abord le Pacifique avant le prochain Moyen-Orient, et ils choisiront le Pacifique contrairement à ce que peuvent penser les Européens, parce que ils sont en train de travailler leur autonomie énergétique. Ils sont en train de travailler un certain nombre de repositionnements stratégiques sur le continent nord-américain. Et à un moment donné, ils décrocheront. Ils décrocheront. Je ne sais pas dans combien de temps, si c'est dans 10 ans ou dans 15 ans, mais ils décrocheront. Et nous, Européens, nous nous retrouverons dans une situation tragique, au sens grec du terme. C'est-à-dire que nous aurons créé toutes les conditions d'une situation sur le plan historique qui sera intenable. Parce que nous aurons fait allégeance à des maîtres d'ouvrage qui ne nous respectent pas intellectuellement, qui ne nous respectent pas spirituellement, qui ne nous respectent pas culturellement, qui nous lamineront du coup politiquement dans les jeux qui se mettront en place. Et comme on sera totalement dépendant sur le plan financier et sur le plan énergétique, eh bien, on sera dans une situation qui, vis-à-vis de nos populations, sera inexplicable, insoutenable et dramatique. Mais ça, aujourd'hui, quand moi je le dis, les gens ne veulent pas l'entendre. Parce que c'est tellement facile d'acheter les consciences avec, de l'endettement facile ou de l'illusion facile sur le plan financier ou bancaire, en faisant croire qu'on peut acheter la paix civile et la paix sociale pour continuer à vivre dans une pseudo-jouissance qui est à la fois mortifère et suicidaire, que bon, bah, les gens veulent pas entendre, quoi. Donc, il y a au niveau de l'Europe, aujourd'hui, il y a un déni de réalité. On pense que de toute façon, les problèmes seront pas pour nous, mais pour plus tard, donc pour nos enfants, enfants et petits-enfants, parce que ça se gérera pas simplement sur une génération. De toute façon, on arrivera toujours à trouver une solution de surface pour.
Oui. On recréera le mythe de l'Andalouse, à la limite.
Oui, tout à fait.
Alors, juste pour annoncer que nous sommes bien sur Radio Courtoisie, dans les Chroniques de la Vieille Europe, et que nous recevons Xavier Guillou encore pour une petite vingtaine de minutes. Je voudrais juste, pour revenir sur la crise syrienne, il y a un pays qu'on n'a pas parlé, et qui, c'est Israël, et on s'est aperçu quand même qu'il y a une différence de stratégie entre les États-Unis et Israël. On a même vu les Russes venir expliquer aux Israéliens qu'il fallait mieux aller de leur côté et que les Israéliens n'ont aucun intérêt à voir la fin du régime de Bachar el-Assad. Est-ce que là, c'est la première fois qu'il y a vraiment une tension au niveau des États-Unis et d'Israël ?
On est tous pris dans des logiques paradoxales. Israël en premier. Israël a instrumentalisé la menace iranienne en la connaissant très bien. C'est toujours très facile d'instrumentaliser une menace que vous connaissez bien. Et en plus, les Israéliens sont extrêmement informés sur ce qui se passe en Iran. Ils connaissent bien cette zone-là, on ne peut pas les sous-estimer. Et bon, chaque fois qu'ils ont eu besoin de réguler la relation avec les Iraniens, ils l'ont fait. Et ils l'ont fait de manière subtile, parce que les cyberattaques qu'ils ont menées sur les centrifugeuses étaient quand même assez exemplaires.
Ouais.
Mais ils ont fait toujours la démonstration qu'ils étaient capables de gérer de façon extrêmement pointue le moindre débordement de l'un ou de l'autre. Quand ils ont envoyé toute l'aviation israélienne sur le nord de la Syrie il y a 2 ans pour pouvoir aller détruire une installation à connotation nucléaire au nord de la Syrie, ils ont envoyé toute l'aviation, ça a été fait en une nuit et ça a été réglé. Donc s'il y a un opérateur, un acteur majeur sur l'ensemble de ce proche Moyen-Orient qui est capable de pouvoir neutraliser, je dirais, les moyens de Bachar el-Assad, qui aujourd'hui sont montrés du doigt, enfin je veux dire les hélicoptères, les avions, les chars, se battent contre les insurgés à Alep et dans d'autres villes, c'est bien les Israéliens. Les Israéliens ont fait la démonstration à chaque fois qu'il y a eu une opération majeure sur la zone, qu'en 48 heures, ils étaient capables de neutraliser les défenses aériennes syriennes et de faire ce qu'ils avaient à faire. Or là, ils ne le font pas. Ils ne le font pas, et quand on regarde bien, on voit bien qu'ils sont pris dans une logique paradoxale. À la fois l'Iran, le Hezbollah, enfin tout ce qu'on peut évoqué en termes de menaces directes et immédiates pour Israël, se trouve aujourd'hui débordé par l'arrivée de ces mouvements salafistes qui veulent prendre Bagdad. S'ils prennent Bagdad, demain, avec les flux de réfugiés et l'instabilité générée notamment
Damas,
la Jordanie, c'est Damas qui tombe.
Oui.
C'est très important pour les wahhabites, parce que Damas qui tombe, c'est aussi emblématique que, Amman qui tombe, c'est aussi emblématique que Damas. Ce sont deux capitales, l'une intellectuelle et l'autre, je dirais, politique et même spirituelle au sein du monde sunnite. Il ne faut jamais oublier que le roi Abdallah VI est quand même l'héritier de la lignée des Hussein, ces tribus hachémites déménagés d'Arabie Saoudite par les Anglais dans l'après-guerre, toutes les opérations que tout le monde autour desquelles tout le monde fantasme derrière Laurence d'Arabie, Philby et compagnie, et qui ont permis l'arrivée des Saouds et des Wahhabites en Arabie Saoudite. Donc aujourd'hui, les Hachémites peuvent être, cette dynastie Hachémite, les Hussein, peut être remise en cause. Or, ils ont une légitimité par rapport à l'islam qui est extrêmement importante, comme le roi du Maroc, qui est commandant des croyants à l'autre bout, de ce continent arabo-africain. Donc, et c'est l'objectif des wahhabites aujourd'hui de faire en sorte que ces deux grands monarques qui ont une vraie légitimité par rapport à l'histoire de l'islam soient éliminés du jeu, comme ça il n'y aura plus qu'eux, hein, en termes de lecture de l'islam, d'un Coran rugueux, rustique, grégaire, bédouin, et extrêmement dur au niveau de la vie du monde musulman. Alors, les enjeux sont énormes, et donc les Israéliens se rendent compte qu'aujourd'hui, ils ont une espèce, pour reprendre l'image du collier de perles à la chinoise, qu'ils ont une espèce de gangrénisation de leur périphérie, qui est en train de se faire à très grande vitesse, avec ces mouvements sunnites, salafistes, qui sont financés avec une espèce d'accord de surface entre les frères musulmans d'un côté en Égypte, et puis les Qataris, les Wahhabites, etc. Ces différentes organisations étant en opposition, mais en accord sur la finalité, les faits recherchés sur l'ensemble de la zone. Et là, les Israéliens ne savent plus sur quel paradigme se caler. Est-ce que la vraie menace, c'est l'Iran avec le nucléaire, le Hezbollah au sud Liban avec ses missiles, etc. Ou est-ce que c'est ce chapelet de mouvements salafistes qui sont en train de se mettre en place et qui peuvent très bien devenir, par les jeux de réfugiés, par la question palestinienne, etc., intrusif en Israël, avec tout ce que ça peut comporter comme déstabilisation extrêmement rapide à l'intérieur d'Israël. Voilà.
Lors des révoltes, à propos de ce fameux film américain, enfin, on va passer à côté, on a pu remarquer qu'il n'y avait pas vraiment de contrôle sur les manifestations par les mouvements sunnites. Le Liban a reçu en grande pompe le pape, oui, même dans les quartiers des chiites, avec des pancartes de bienvenue. Et dès le lendemain, Hassan Nasrallah organise une manifestation monstre, la plus grande du monde arabe, contre ce fameux film. Est-ce que c'est pas une démonstration, en fin de compte, des chiites vis-à-vis du monde sunnite? Mmh. C'est de leur montrer, voilà, c'est nous qui sommes capables d'organiser.
Oui, 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 c'est une réponse du berger à la bergère, c'est clair. Et ce qui est quand même pour vos auditeurs, je leur recommande et j'en suggère de prendre le temps de rentrer dans toute cette complexité de l'Orient et du Levant. Les gens ne comprennent pas, par exemple, quand on va au Liban, que le monde chrétien soit aujourd'hui proche du monde chiite. Et c'est vrai que moi, j'ai vu des médecins chrétiens aller soigner des chiites dans les camps chiites au sud Liban. Mmh. Donc ça peut surprendre, parce que dans l'imaginaire que l'on a, oui, le Nasrallah, c'est l'épouvantable personnage que tout le monde monte du doigt comme étant l'ennemi d'Israël, parce que il a envoyé quelques missiles sur Israël.
Donc on est dans des... Ça, sont les médias occidentaux qui nous envoient cette image, Xavier Guillou, si tu peux me permettre. Parce qu'en fait, quand on voit les chiites, les chrétiens et bien d'autres, et les druzes, les alaouites, on a l'impression qu'il y a quand même une résistance des minorités au sens large moyen-orientale face à une offensive tous azimuts des wahhabites, enfin, donc des sunnites via les wahhabites. Et que c'est cette cristallisation qui est en train de s'opérer aujourd'hui sur tous les fronts.
Oui, mais elle ne date pas d'aujourd'hui. Moi, j'ai eu à vivre la guerre du Liban dans les années 80, puis après la reconstruction de Beyrouth et du Liban, et j'ai vu comment les sunnites, notamment derrière Hariri, mmh, qui a été quand même le sponsor de M. Chirac, et notre classe politique ne jurait que par lui, ont évincé les chrétiens, toutes les minorités chrétiennes du centre de Beyrouth. Mmh. Hein, et comment, rue par rue, dans la reconstruction de Beyrouth que l'on a glorifiée, et dans laquelle on a envoyé des experts français pour pouvoir les aider en termes d'urbanisme, on a progressivement décentré les chrétiens.
Enfin, on a nettoyé la ville, vous voulez dire.
Ah oui, oui, non, mmh, mais ça s'est jamais dit, mais enfin, mmh, c'est la situation. Enfin, je veux dire. Donc après, on s'étonne que le général Aoun, qui a des rares résistants, si vous voulez, du réduit chrétien, est passé alliance avec les chiites. Chiites que vous retrouvez, pour ceux qui ne connaissent pas forcément la zone, mais chiites que vous retrouvez, notamment les femmes chiites, que vous retrouvez à Bethléem, dans la basilique de Bethléem, qui vont honorer la Vierge, ou à Notre-Dame de Harissa, au Liban, et qui vont honorer la Vierge, parce que dans leur rite, dans leur pratique de la religion, la Vierge est reconnue. Donc il y a des ponts, il y a des dans cet Orient, enfin, je veux dire, les religions ont appris à vivre ensemble. Enfin, je veux dire, quand on dit que c'est une guerre religieuse, ce sont les wahhabites qui veulent absolument une guerre religieuse. Mmh. Ce sont les salafistes qui veulent absolument une guerre religieuse. Mais toutes les religions dans cet environnement du Proche et Moyen-Orient, ça fait depuis des millénaires qu'elles vivent ensemble. Ça fait depuis des millénaires qu'elles ont appris à fonctionner ensemble. Et c'est l'instrumentalisation d'enjeux politiques et d'enjeux de pouvoir qui font qu'aujourd'hui, on est en train de stigmatiser les religions pour d'autres finalités, quoi. Hein, voilà. Et ça, je crois que c'est important de le dire, parce que le pape l'a dit dans son voyage au Liban. Hein, il a fait passer un message au monde arabe, notamment au monde sunnite, en leur demandant d'une certaine manière de retrouver un peu de sérénité par rapport à ce débat-là. Et que l'Orient a toujours été en mesure d'assumer et de vivre son interreligiosité. Et s'il y a bien des pays qui sont symboliques et emblématiques dans ce domaine-là, c'est bien le Liban, même la Syrie. Enfin, je veux dire, les grandes écoles de Damas, aussi bien sur le plan de la chrétienté que de l'islam, ont toujours su travailler dans une très grande intelligence au fur et à mesure des millénaires. Il ne faut jamais oublier quand même que les premiers Corans ont été écrits par des chrétiens syriaques au moment de, je veux dire, des grandes dynasties omeyyades.
Omeyyades.
Voilà, donc les gens ne le savent pas, ça, mais donc il y a toujours eu une intelligence régionale sur ces questions-là. Là, aujourd'hui, on est sur des règlements de compte. Les sunnites veulent absolument reprendre le contrôle de l'ensemble de ce Moyen-Orient, notamment les wahhabites, qui n'ont jamais été légitimes par rapport à une certaine pratique ou une certaine lecture de l'islam. Et donc là, on est parti dans quelque chose d'assez gravissime, parce que le problème, c'est que au travers de nos logiques de gouvernance qu'on a exportées au fur et à mesure du XXe siècle, on a laminé toute approche qui sont des approches dimensionnantes dans ces régions-là, qui sont l'approche de la famille, des tribus, du territoire, de l'identité, de la religion, etc. On a laminé tout ça en demandant aux dirigeants de ces pays de rentrer dans une vision qui est celle de l'État-nation, quoi. Donc il faut qu'il y ait une nation syrienne, une nation libanaise. Quand vous allez au Liban, on voit bien que la nation libanaise, c'est difficile. Enfin, il y a un président qui est chrétien, il y a un président de l'Assemblée nationale qui est sunnite. Puis après, il y a des partages de rôles entre communautés. Donc on est dans l'intercommunautaire, on est dans une ingénierie particulière. Donc aujourd'hui, on voit bien que cette espèce d'arrogance juridique institutionnelle qu'on a essayé d'imposer ne fonctionne pas. Et en faisant ça, on a affaibli les écoles de pensée sur le plan théologique, sur le plan culturel, sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, etc. Et on a aujourd'hui quoi comme interlocuteur? Je suis désolé de le dire, mais on a du bédouin qui veut nous vendre un islam qui est un islam rustique, dur, impitoyable pour les femmes, extrêmement grégaire et pour les populations, et qui tire vers le bas, quoi. Et qu'est-ce qu'on a en face? On n'a aucun contenu. Je ne préfère même pas parler de nos sociétés à nous qui ne savent même pas exactement aujourd'hui, qui ne savent plus ce qu'est même la religion chrétienne. Je ne parle pas des autres religions qui ignorent, quoi.
Alors, on va, comme l'heure passe, peut-être une dernière question, on n'en a pas parlé beaucoup, mais c'est peut-être sur la fin de votre papier, vous dites que bon, la Chine qui est restée assez silencieuse, comme à son habitude, pourtant vous pensez qu'elle risque d'être, la nouvelle puissance, mais qu'elle risque de dicter les nouvelles règles au Moyen-Orient. Et c'est une région que, contrairement à ce qu'on croit, elle connaît très bien.
Oui, c'est une région qu'elle connaît très bien. Alors, le papier que vous signalez, c'est un papier que j'ai signé dans DiploWeb, hein, sur le site de DiploWeb.
Ouais. L'énigme syrienne,
du
25
fait.
Août.
Donc les gens peuvent retrouver sur le site.
On le mettra sur notre site.
Sur la Chine, je ferai deux remarques. La première, la Chine connaît très bien cette région-là parce que c'est le terminal de la route de la soie. Et la Chine a toujours eu une main, si ce n'est pas un bras, sur ce terminal qui débouche derrière Samarcande, sur cette région qui est ce nœud syriaque, ce nœud stratégique. J'invite vos auditeurs à regarder une carte, hein, quand même, hein, parce que c'est quand même Damas. N'a jamais joué un rôle secondaire dans l'histoire de ce proche Moyen-Orient. Elle a toujours joué un rôle capital en termes de zone de pouvoir. Et la Chine a toujours entretenu des relations extrêmement sophistiquées avec ce terminal. Et elle connaît parfaitement, mais depuis des millénaires, elle connaît parfaitement la subtilité des relations aussi bien avec le Perse, le Slave, le Turc. Il faut quand même pas oublier que le Turc, les turcophones étaient des populations plutôt d'Asie centrale qui ont été poussées par les Mongols en Anatolie. Hein. Donc, je veux dire, l'Asie a, dans sa respiration sur le plan historique et géopolitique, n'a jamais été secondaire par rapport à la zone. Hein. A toujours été assez dimensionnante. Et aujourd'hui, la Chine a besoin, pour son émergence en termes de modernité, a besoin d'avoir accès aux ressources fossiles de cette région-là. Et ce que l'on voit, c'est que depuis quelques années, une grande partie des accords qu'elle a signés ne sont plus tellement sur la zone de la péninsule arabique d'Ormuz, mais sont remontés vers le nord. Et là, vous avez un acteur comme Poutine, mais vous avez des acteurs comme tous les pays de Kazakhstan, le Turkménistan, etc., qui deviennent aujourd'hui des interlocuteurs majeurs et significatifs de la Chine pour son approvisionnement futur. Donc là, vous avez donc sur le plan tactique des repositionnements qui expliquent qu'aujourd'hui, la Chine, aux côtés de la Russie, bloque la gesticulation occidentale. Ça peut aller, à mon avis, alors là c'est un jeu il faut voir comment vont se passer le lendemain d'élections aussi bien américaines que chinoises, parce qu'on est comme dans une situation très singulière sur cette année 2012. On n'a jamais eu autant d'élections. On a à peu près 80% de la création de richesse du monde qui est en phase de transition de gouvernance. Hein. Je vais pas dire de phase électorale, parce que transition de gouvernance entre les uns et les autres. Les deux acteurs majeurs qui s'affrontent sur le Pacifique, les Américains et les Chinois, sont en transition de gouvernance en même temps, quasiment à 15 jours près. Quoi. Donc, au lendemain de cette transition de gouvernance, comment va se jouer, parce que c'est là le vrai rendez-vous, comment vont se jouer à un moment donné le rapport de force entre Américains et Chinois sur la zone. Moi, je pense que les Américains aujourd'hui n'ont pas envie de négocier, qu'ils peuvent utiliser l'arme monétaire, le dollar, l'hyperinflation, etc., pour faire comprendre aux Chinois qu'ils sont encore les maîtres du jeu et même instrumentaliser, des confrontations régionales entre grands acteurs régionaux, c'est-à-dire Perses, Turcs et Russes, avec le sunnisme au milieu qui est en crise, pour voir avec un petit peu, d'agitation israélienne qui joue le stress avec quelques opérations bien ciblées pour retarder sur l'échéance d'une remise en cause des accords qui font qu'aujourd'hui les États-Unis sont les seuls maîtres de la sécurisation de cette sécurité énergétique. Je pense que de toute façon, à un moment ou à un autre, on sera obligé d'aller, non pas vers un nouveau Yalta, mais devant la constitution d'un nouveau tour de table où, d'une manière ou d'une autre, les Chinois auront leur mot à dire. Et où, d'une certaine manière, ils vont contraindre l'Occident à faire des abandons de pouvoir et de puissance. Et ça sera le vrai rendez-vous. Je pense sur le plan géopolitique, ça sera la vraie rupture majeure que nous allons vivre dans la décennie qui vient.
Bah écoutez, merci à vous, Xavier Guillou, de votre éclairage. Avez-vous un livre en préparation ?
Oui, j'en ai deux en préparation, mais j'ai pas beaucoup de temps pour les écrire. Parce que, vous savez, le problème que l'on a, c'est que quand on est sur ces sujets-là, soit vous êtes dans un bureau et vous réfléchissez à ces questions et vous êtes loin des théâtres d'opération, ou soit vous êtes un acteur de la vie internationale et vous passez beaucoup de temps sur le terrain pour comprendre un petit peu les subtilités, essayer de capter les signaux faibles qui émergent ici et là, comprendre les jeux d'acteurs, les pièges, etc. Et donc ça favorise pas forcément l'écriture.
Bah écoutez, vous serez le bienvenu dès que le prochain sera en librairie. Écoutez, merci beaucoup et puis à une prochaine, Xavier Guillou. Nous allons nous faire une légère pause et puis on va retrouver. Alors par contre, on va pas retrouver notre ami Philippe Christel en direct parce que je crois qu'il est un match de foot. Enfin, il est bloqué. Je sais pas ce qu'il a, mais on va essayer de l'avoir par téléphone. En attendant, on va faire une légère pause musicale. De retour sur l'antenne de Radio Courtoisie dans cette seconde partie des chroniques de la vieille Europe. Alors nous avons la partie bien sûr qui est un peu écourtée parce que notre invité a été un peu long mais passionnant. Nous avons enfin Philippe Christel. Alors, et Philippe Christel, il paraît, les rumeurs disent que vous êtes au match de foot juste à côté de Radio Courtoisie.
Écoutez, mon cher Patrick et mon cher Grégoire, je peux vous confirmer que le complot bat son plein puisque à l'évidence, ce sont les fonds du Qatar qui ont subventionné très cher une équipe de footballeurs pour créer des matchs à grand spectacle, pour créer des embouteillages, pour m'empêcher d'être présent sur les ondes de Radio Courtoisie.
Et d'approuver les analyses de Xavier Guillou, notamment sur le Moyen-Orient.
Et d'ailleurs, j'en ai donc profité, puisque je suis garé en double fil devant la radio, un peu défaut de me pouvoir me garer correctement, pour écouter, vous avez fait une excellente émission.
Oh bah écoutez, merci.
Et
Philippe,
je tiens à vous en féliciter. Alors, je suis d'autant plus frustré que j'avais quand même préparé un nombre de choses assez considérable, et donc ma voiture est constellée de notes dans tous les sens. Le premier sujet peut-être que je voulais aborder avec vous, on a parlé tout à l'heure de la poutinisation de certains États et de la détermination de Vladimir Poutine. Je voulais revenir sur un certain nombre d'éléments qu'on a vu beaucoup circuler cette fin d'été et pour souligner une fois de plus dans quel scandale la presse, notamment française, a été capable de se vautrer. Je pense bien évidemment à l'affaire des Pussy Riot. Alors, on a moult fois expliqué que cette opération était une manière de museler la liberté d'expression parce que des jeunes femmes avaient souhaité interrompre une cérémonie religieuse en scandant des slogans anti-Poutine. Je voudrais simplement, quitte à être un petit peu trivial, mais c'est une information qui n'a pas circulé en France, en tout cas pas à ma connaissance, mais qui est évidemment présente dans d'autres médias étrangers.
La trivialité, c'est parfait pour Radio Courtoisie. Allez-y, Philippe Christel. C'est le bon média.
Je pense que on ne sait pas que ce fameux groupe des Pussy Riot, et alors sur Radio Courtoisie, on ne parle pas beaucoup anglais, on ne souhaite pas parler anglais, donc on ne traduit pas forcément le titre, mais tous ceux qui l'auront fait auront donc une idée. Le groupe des Pussy Riot avait déjà été condamné 5 fois par la justice russe pour systématiquement essayer de, une fois, deux fois, trois fois, faire en sorte qu'elle cesse ses provocations stupides. La dernière provocation qui avait valu une condamnation, là encore mesurée, des Pussy Riot, puisqu'elles étaient libres donc de pouvoir dans la cathédrale du Christ Sauveur faire ce qu'elles ont fait. La dernière condamnation, c'est parce qu'elles s'étaient à demi-nues présentées dans une grande boucherie volaillerie reconnue de Moscou, se sont emparées de morceaux de viande et de bêtes prises à l'étal pour en faire un usage que la morale réprouve. Tout ça au nom de la liberté d'expression. Il faut imaginer la scène quand même. On imagine chez Fauchon des femmes nues prendre de la marchandise pour s'en servir comme on ne devrait pas.
Très bien.
Et j'ajoute, pour ceux qui ne connaissent pas non plus la Russie, que la cathédrale du Christ Sauveur, c'est ce monument qui a été intégralement dynamité par Staline et qui a été reconstruit à la fin des années Yeltsin. Et la cathédrale du Christ Sauveur, c'était l'endroit par essence où ceux qui venaient insulter et faire le sacrilège contre la religion orthodoxe, c'était cet endroit-là qu'ils choisissaient. Et donc cet endroit était le point d'orgue des manifestations anti-chrétiennes ou anti-orthodoxes. Voilà des éléments de contexte qui expliquent aussi un petit peu que, à un moment donné, n'importe quel juge considère que l'indulgence a ses limites. Voilà en tout cas ce que je voulais rappeler. Et puis, pour être plus léger, je ne sais pas si vous avez vu passer, mais je vous sais, mon cher Patrick, vous, fan de Napoléon, et je ne sais pas si vous avez vu comment la Russie a célébré à Borodino la grande guerre patriotique, alors contre Napoléon, bien évidemment.
Oui, j'ai bien vu.
C'est l'enjeu. Donc, mais là, on a encore, là aussi, l'illustration d'une tradition historique à des fins patriotiques, puisque bien évidemment, derrière cette reconstitution de cette bataille mythique du 7 décembre 1812, c'est à la fois quelques bouffées de romantisme, mais également d'une nostalgie d'empire. Mais on avait là encore un discours de patriote délivré par le président Poutine, le tout sur une fête, puisque vous savez que seuls les Russes, malheureusement, seuls les Russes aujourd'hui font vivre comme elle le devrait la geste napoléonienne, et c'était absolument brillant de voir des milliers de fantassins et de cavaliers qui ont reconstitué cette bataille, tant en figurant les soldats du tsar que les soldats de l'empereur.
Vous aurez remarqué, mon cher Philippe, que depuis qu'on fait l'émission de Radio Courtoisie, toutes les anniversaires de bataille de Napoléon, il n'y a aucune bataille anniversaire qui se passe en France. Il y en a eu, les Anglais ont fait, je crois,
Trafalgar,
Waterloo a été fait, mais la France n'a fait strictement rien. Je crois qu'on va les faire à l'étranger.
Bah, Austerlitz, régulièrement, il y a une reconstitution. Si, à Saint-Cyr, il y a la reconstitution d'Austerlitz sur le plateau de Pratzen, dans le Bois du Loup, Philippe Christel.
Il commence à y avoir effectivement quelques collectionneurs qui font des choses, mais ça n'est sans aucune mesure. Et avec ce qui se passe en Russie. Et malheureusement, les autorités françaises, qui sont toujours invitées en grande pompe, sont assez discrètes dans ces manifestations. Là, la France avait délégué le président Giscard d'Estaing.
Oh, on était
sur le chemin des antiquités.
Un académicien.
Un académicien, effectivement, célèbre par sa plume. Bref, je voulais peut-être une incidence aussi sur la géopolitique russe pour partager avec vous j'aurais voulu développer plus longuement, mais la problématique du gaz de schiste. Alors, bon, c'est un sujet vaste.
Oui.
Le gaz de schiste a au moins une conséquence. Vous avez vu que les Américains ont autorisé l'extraction hydraulique, donc d'avoir recours au gaz du schiste. Ça a eu deux conséquences. Première conséquence, c'est que les Américains sont désormais autosuffisants en gaz et vont continuer à être un exportateur majeur de gaz. Ce qui est pas inintéressant dans une perspective géopolitique du point de vue des États-Unis. Deuxième conséquence, c'est que l'arrivée sur le marché du gaz de schiste a fait baisser le prix de ce gaz, donc ce qui est bon grosso modo pour les prix de l'énergie, mais surtout ça veut dire que ça, par opposition, ça renchérit de manière importante le coût des gaz, notamment qu'on voulait explorer dans les régions polaires arctiques ou subarctiques, avec pour conséquence le fait, on l'a vu, qu'un certain nombre de projets, notamment qui étaient menés par Gazprom, Total ou Novatek et le Norvégien Statoil, ont pour l'instant été gelés. Ce qui est intéressant, et on le voit également dans les menaces qui ont été portées sur aujourd'hui par la Commission européenne sur Gazprom, cette logique du gaz de schiste a aussi des effets pervers en termes de géopolitique, puisque du coup, c'est priver la Russie d'une partie de ses leviers. On n'en est pas là tout de suite. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que la France, si elle le voulait, pourrait décider l'extraction du gaz de schiste. On a vu que le président Hollande a décidé l'inverse. C'est peut-être une manière de rendre la politesse à Vladimir Poutine pour l'avoir si mal traité lors de leur première rencontre. Plus sérieusement, je pense que les Français ont pour le coup pris une bonne décision, tout simplement parce que nous savons aujourd'hui que les technologies d'extraction du gaz de schiste ne sont pas matures, elles coûtent très cher, elles ont des impacts considérables en termes notamment de consommation d'eau. Il y a des États aux États-Unis qui ont fait le choix de privilégier l'eau pour le gaz, les forages de schiste, au détriment de l'agriculture, ce qui renchérit le coût des céréales et qui aggrave la pénurie.
C'est un manifeste, Philippe Christel.
Pardon ?
Ce n'est pas un billet, c'est un manifeste.
Oui.
Non,
au téléphone, je réagis moins bien que dans le sud. Hein.
Non, mais allez-y, continuez.
C'est aussi pertinent, mais bon.
Non, les auditeurs et nous-mêmes commencions à pleurer sur les lacs qui commençaient à manquer d'eau au milieu des États-Unis et le maïs qui pourrissait sur pied à cause de la décision de Barack Obama. Mais on en était là. Oui. Hein, mais...
D'accord. Et non mais c'est intéressant de voir effectivement quand que la décision sur le gaz de schiste, accessoirement, et j'en finirai là-dessus, on ne sait pas dire aujourd'hui, notamment sur les régions qui sont proches de la faille Pacifique. On sait qu'on travaille sur des zones qui sont des zones à faille, qui sont des zones sismiques. On est en train de vider une partie du sous-sol et du grand sous-sol. On ne sait pas aujourd'hui, les technologies ne sont pas assez matures pour cela. Je pense que pour une fois, le président Hollande a pris une bonne décision, même s'il l'a probablement prise par lâcheté et par volonté de ne rien changer à rien.
Oui, attendez, Grégoire Gambier.
Christelle, si vous me permettez, notre invité précédent, Xavier Guillou, est un grand pourfendeur, notamment du principe de précaution. On n'en a pas parlé puisqu'on avait des sujets géopolitiques. Et donc, il y a toujours une ligne de crête, comme vous le savez, entre la nécessité quand même d'avancer et de tester technologiquement des hypothèses, et celui d'être de se rassurer, d'avoir des technologies matures, comme vous voulez, avant de commencer. Si dans les deux cas de figure sont potentiellement dangereux, donc c'est bien la ligne de crête. Et là, ce que vous dites est tout empreint de principes de précaution, ce qui m'étonne de votre part. Mais ce n'est pas grave.
Oui, bon.
Bon, mais vous avez le droit, hein, mon cher Philippe.
Oui, 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 non, mais
on a le droit d'être frileux, hein. À l'approche de l'automne. Allez-y, continuez.
Donc, le nouvel élément simplement que je voulais porter, c'est que on a là encore pas beaucoup parlé de ce dernier attentat suicide qui a secoué le nord du Caucase et tout particulièrement au Daghestan. Donc, il n'a échappé à personne que les salafistes, etc. Enfin, vous venez faire d'une heure sur le sujet, tout le monde connaît bien ça. Ce qu'on ne voit pas, c'est que l'islam radical continue aussi à chercher sa place dans des zones qui sont, je parle des zones de l'ex-empire russe, qui sont des zones quand même de consensus. On sait qu'une partie des avantages de l'empire russe, puis soviétique et néo-russe aujourd'hui, c'est d'avoir trouvé une certaine forme de consensus entre les différentes relations et nationalités, notamment islamiques en Caucase ou en Asie centrale. Et puis, on a vu effectivement à la fin du mois d'août, c'était le 28 août, que plusieurs attentats ont tué des piliers de la confrérie soufie.
Ah.
La pratique d'un islam modéré. Et bien évidemment, on n'en a pas énormément parlé. On a vu également que c'était en écho à l'assassinat d'un moufti du Tatarstan, le Tatarstan qui est cette vieille terre d'islam très au cœur de l'édifice russe. Et donc, bien évidemment, on n'a pas donné beaucoup d'écho à ça. D'abord parce que ça montrerait que la Russie serait une victime du terrorisme islamique et ce qui viendrait battre en brèche l'idée du brave Tchétchène qui ne rêve que de démocratie et d'occidentalisation et qui est persécuté par le russe. Voilà, très rapidement, je voulais également évoquer avec vous, mais on le fera peut-être plus tard, l'accélération à droite du gouvernement Cameron. David Cameron a remanié son gouvernement. C'est assez intéressant de voir que ce sont les eurosceptiques, les climato-sceptiques qui l'ont emporté. On aurait pu commenter la défaite des nationalistes et des anti-européens aux Pays-Bas. J'aurais voulu vous parler également de l'Allemagne. Je crois que on ne voit pas, et c'est un effet aussi de l'effacement progressif de la France, malheureusement, dont les Allemands ne rigolent pas tant que ça, mais on voit que c'est désormais Angela Merkel qui est de plus en plus la voix de l'Allemagne en Europe et à l'étranger. J'aurais voulu qu'on en évoque quelques éléments. Et trois éléments aussi rapidement. On a à l'occasion, j'aurais voulu vous lire ça parce que c'était cocasse, mais à l'occasion des Jeux Olympiques et des Paralympiques, on a réabordé le sujet de l'attentat de Munich. Vous vous souvenez?
Oui, très bien.
Lors des Jeux Olympiques de Munich où les terroristes ont pris en otage une partie de la délégation sportive israélienne et le tout s'est terminé dans un carnage absolu à l'aéroport de Munich lors d'une tentative de sauvetage ratée. Et puis, donc on a tant des archives allemandes que des documents secrets israéliens qui ont révélé les dessous de ce fiasco. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que en fait, une bonne partie de la facilité des terroristes vient du fait que les Allemands ont été d'une naïveté totale sur la protection des officiels, des sportifs aux Jeux Olympiques. Et pourquoi l'ont-ils été? Et c'est ça qu'ils expliquent, c'est que, en fait, il était évidemment hors de question de reproduire des Jeux Olympiques militarisés, parce que ce dont on se souvenait précédemment, c'était ceux de 1936, qu'il était absolument impensable pour des Allemands de contrôler policièrement les gens qui venaient chez eux. Et donc, c'était très drôle, puisque on avait, si j'ose dire, on avait là l'expression la plus aboutie du national-masochisme, vous savez, qui a remplacé le national-socialisme en Allemagne, et qui avait les conséquences que l'on sait. Je trouvais qu'il y avait un petit raccourci assez cocasse. Et puis le dernier sujet que je voulais aborder avec vous, parce que je pense
Il reste 4 minutes.
Dans le monde tout à fait mondialisé qui est le nôtre, et même si n'importe quel éleveur, pasteur ou ouvrier peut avoir un téléphone cellulaire, il y a un titre dans la presse qui m'avait beaucoup plu, parce que ça nous ramène à des réalités et on ne maîtrise pas, on ne comprend pas toujours que c'est comme ça que le vrai monde fonctionne. Je vous lis le titre qui m'avait beaucoup plu. La recrudescence des vols de zébus entraîne une vague de violence meurtrière à Madagascar. Je trouvais que c'était frais comme titre et je voulais le partager avec nos auditeurs. On sous-estime l'impact, hein, vous savez, le battement d'ailes du papillon, on sous-estime l'impact de la recrudescence des vols de zébus à Madagascar. Voilà, je n'en dirai pas plus. J'aurais voulu partager avec vous, mais nous ne sommes qu'au début. L'hystérie sino-japonaise, la prochaine émission que nous ferons se fera
faudra un peu de recul. Oui.
Et donc, nous aurons un petit peu de recul. Je crois que ce qui est quand même intéressant à signaler, c'est que visiblement, la partie nationale conservatrice qui a été fortement blessée avec l'affaire du scandale de cette femme qui a été condamnée, de son mari qui était un pompe du parti, enfin vous connaissez l'histoire dans l'assassinat de cet homme d'affaires britannique. Ce camp-là a visiblement souhaité se redonner de l'oxygène en lançant ces tensions patriotiques. Visiblement, il est dépassé par les événements et là aussi, il y a des forces qui sont en libération, semble-t-il, qu'on a du mal à contrôler. Et d'ici notre prochaine émission, nous saurons aussi si la fusion EADS et British Aerospace se fait. C'est un autre sujet qu'on aime bien aborder.
Il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus.
Oui. Personnellement, je n'y crois pas, mais on verra si comme d'habitude, j'ai faux.
Sur la flambée de nationalisme chinois, comme le disent nos médias bien pensants, n'oublions pas, on l'a rappelé avec Xavier Guillou tout à l'heure, que nous sommes à quelques semaines du congrès du PCC qui doit renouveler totalement l'équipe dirigeante donc de la Chine.
Oui.
Et on peut pas exclure l'hypothèse que tout ceci s'inscrive aussi dans des luttes d'influence claniques à l'intérieur du parti.
Alors, à l'instant, il me semblait que c'est ce que je venais d'évoquer.
Oui, mais vous étiez plus sur l'épisode de faits divers de l'affairiste anglais supprimé. Mais en fait, c'était en se projetant, le vrai sujet, c'est le congrès du PCC.
Vous
disiez.
Mais ce que je dis, c'est que je pense que ceux qui ont déclenché ça n'arrivent pas à le contrôler.
Ah oui, non, ça,
c'est pas le cas. Mais c'est la première fois. Bon, je referme la parenthèse. Et donc, pour finir, donc on verra la prochaine fois s'il faut aller au bout de cette fusion EADS British Aerospace. Qui est faite pour contrer Boeing, nous dit-on, être une occasion de mettre complètement dehors les intérêts des gouvernements espagnols, britanniques, français et allemands. Les Français qui ont déjà bien du mal avec l'actionnariat totalement désastreux.
Il va falloir arrêter, Philippe.
Du fils Lagardère. On verra si ça va jusqu'au bout. Personnellement, je n'y crois pas. Rendez-vous la prochaine fois et merci de m'avoir écouté.
Merci, Philippe. Voilà la fin de cette émission. Vous pourrez retrouver cette émission jeudi soir à la même heure ou alors sur le site de Radio Courtoisie pendant 7 jours et autrement après, il faudra vous abonner ou autrement sur le site de lavieilleeurope.fr où là, vous pourrez retrouver toutes les émissions spécifiquement de La Vieille Europe. Gérard Gambier, un dernier mot rapide, non?
Non, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Merci à nos invités. Par téléphone, c'est jamais facile.
Bon, ben voilà, et je vous donne rendez-vous dans 4 semaines.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la nuit de la vieille Europe, dirigé par Patrick PL, assisté de Philippe Christel et Grégoire Gambier, diffusé en direct mardi 18 septembre 2012 de 21h30 à 23h, et en différé jeudi 20 de 21h30 à 23h également. Elle a été réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez la cassette pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.